des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Salut, c'est Vanessa Destinée
et Dalila Awada.
Racisme, diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler.
Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment Fort, c'est des discussions animées par des personnes racisées.
Pour les personnes racisées? Nah, pour tout le monde! Yes!
Pigment Fort.
Salut tout le monde! Bienvenue à Pigment Fort. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et de mon côté, je suis vraiment ravie de dire qu'aujourd'hui, je suis redevenue une femme complète enfin, car ma douce moitié Dalila Awada est de retour pour nous jouer de mauvais tours.
T'es pas intense un peu?
Non, pas du tout.
Je t'ai autant manqué.
Oui!
Oh.
J'ai cru qu'on se reverrait jamais.
Ah, mais je suis là et ça va très bien.
Super. Oui, ça va bien cette semaine?
Oui.
OK. Ben là, on peut prendre un petit temps, là, c'est un podcast. On peut prendre le temps de discuter si tu veux ouvrir ton cœur au reste de nos auditeurs.
Je pense que ça va.
C'est un petit peu submergé par la charge de travail.
Mais des fois, j'ai juste de la difficulté à me rappeler ce que j'ai fait durant ma semaine. Mais ça va.
OK. L'hiver achève, OK? C'est bientôt le début d'un temps nouveau. Trêve de présentation, là, vous voulez pas savoir comment qu'on va, vous voulez savoir de quoi on va parler parce que si on commence à jaser, on n'arrêtera plus, là, vous nous connaissez. Alors, on revient au sujet du jour. On est en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et c'est un mois qu'on célèbre officiellement au Canada depuis 1995 grâce à une motion de Jean Augustine qui est la première femme noire à avoir été élue à la Chambre des communes, c'était en 1993. C'est aussi la première femme noire qui a fait partie d'un cabinet fédéral. Donc ça, c'est pour le petit fun fact historique là-dessus. Mais l'idée générale de commémorer l'histoire des Noirs nous vient évidemment des États-Unis.
On peut remonter à plus loin aussi. En 1926, Carter G. Woodson, qui est un historien afro-américain, avait fondé une association qui était destinée à creuser dans l'histoire des peuples noirs et à faire découvrir cette histoire-là. Donc, lui a comme proclamé, en quelque sorte, la deuxième semaine de février, la semaine de l'histoire des Noirs. Donc, c'est une période qui est pas choisie par hasard parce qu'elle correspond à des dates d'émancipation importantes dans l'histoire des Afro-Américains, comme par exemple les anniversaires de Frederick Douglass, qui est un ancien esclave devenu un intellectuel, un grand penseur renommé, mm-hmm. et aussi Abraham Lincoln, qui est le 16e président des États-Unis, qui est celui qui a aboli l'esclavage.
Puis en fait, pour Carter G. Woodson, qui est devenu le deuxième doctorant afro-américain de l'histoire là, des mm-hmm. États-Unis, la survie physique et intellectuelle des Noirs dépendait de la transmission de leur histoire. Et donc, en 1976, pour marquer le bicentenaire des États-Unis, le président américain Gerald Ford a décidé de prolonger la durée des commémorations, on le disait, donc de faire passer ça d'une semaine à un mois. Il voulait ainsi encourager tous les Américains à saisir l'étendue de la contribution des Noirs à la fondation et au développement de la nation. Et là, depuis la mise en place du mois de l'histoire des Noirs, il y a plein de critiques. D'abord de certains Blancs, évidemment, qui aiment y aller de ce commentaire audacieux et plein d'originalité, vraiment rafraîchissant. Là. Ouais, mais c'est quand là le mois de l'histoire des Blancs? Les 11 autres, les amis, OK? Parce que les contributions des Blancs à la société sont loin d'être invisibilisées. C'est omniprésent. En Occident, on célèbre les Blancs dans toutes les sphères de la société. Mais il y a aussi des critiques quand même, il faut le dire, à l'intérieur même des communautés noires, comme quoi on ne saurait résumer l'histoire des Noirs à un seul mois, comme quoi aussi c'est de la ghettoisation, dans le sens qu'il faudrait pas traiter l'histoire des Noirs et l'histoire des États-Unis et ou du Canada comme deux entités distinctes, puisque l'histoire des Noirs, c'est l'histoire des États-Unis et c'est l'histoire du Canada. Il y a aussi l'argument d'une semaine ou d'un mois de l'histoire des Blancs, qui a été repris quand même par le grand intellectuel afro-américain James Baldwin, qui a dit qu'il fallait effectivement inviter les Blancs à se pencher sur leur histoire de manière intensive pour mieux comprendre les dynamiques de pouvoir. En tout cas, peu importe notre opinion là-dessus, le mois, il a été officialisé, il est en cours. Et dans sa forme actuelle, moi, il y a un élément qui me préoccupe énormément. Puis c'est un peu la même chose qu'avec la Journée internationale des droits des femmes. J'ai l'impression que c'est rendu un événement super mainstream qui est un peu dépolitisé. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'est une tradition qui était fortement ancrée dans le militantisme. Tu sais, là, les jours passent, puis on dirait que c'est l'occasion de plugger Martin Luther King à tout vent, la figure la plus connue là, de la lutte pour les droits civiques américains, puis de répéter comme un perroquet « I have a dream ». Puis au passage, ben, de déformer le message du Dr. King en disant que le racisme prend fin quand on arrête de voir les couleurs. Puis de présenter cette figure-là comme étant le pacifiste absolu qui s'est sacrifié pour une cause, alors que c'était un révolutionnaire antiraciste et anticapitaliste considéré comme radical qui s'est fait froidement assassiner. On dit aussi qu'il faut répondre à la haine raciale par de l'amour, comme si on avait mis fin à l'esclavage et à la ségrégation avec l'amour. On va dire sinon que c'est pas le moment de faire des revendications, là, c'est plutôt le moment de se souvenir. Est-ce que c'est moi qui capote avec ça ou j'ai vraiment raison de croire qu'on a édulcoré le message derrière le mois de l'histoire des Noirs? Mais pour en parler, on reçoit Émilie Nicolas, anthropologue et chroniqueuse au Devoir.
Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'invité.
Salut Émilie.
Salut, ça va?
Salut.
Ça va bien toi? Merci d'être avec nous.
Ben merci de m'avoir reçue.
Yes. Ben on te connaît bien. T'es une afro-militante. On sait que tu es engagée dans plein de causes. Je sais que t'es familière avec le dossier du jour parce que je t'ai entendu à un moment donné à la radio lire un extrait d'un discours de Martin Luther King qui était pas mal plus élevé que ce qu'on est habitué d'entendre et ça m'a un peu surprise.
Ben en fait, je pense que c'était dans le contexte d'une émission qui est juste à la fin janvier, parce qu'aussi aux États-Unis, en plus du mois de l'histoire des Noirs, il y a la journée Martin Luther King qui se tient juste avant, dans le fond, le mois de février. Puis lors de cette journée-là, c'est vraiment le festival sur les médias sociaux de dire que, puisqu'il disait qu'un jour, il faudrait juger les enfants en fonction de leur caractère et non pas en fonction de leur race ou de leur couleur, ben là, c'est le temps de pas parler de la couleur, etc. Donc, les gens utilisent beaucoup aujourd'hui Martin Luther King comme une espèce de pilule à enfoncer dans le fond de la gorge des gens qui ont encore des choses à dire. C'est vraiment une façon pour beaucoup de personnes qui ont une vision assez conservatrice, réactionnaire, de prendre Martin Luther King, d'utiliser des citations hors de leur contexte, puis vraiment d'utiliser ça finalement pour faire exactement le contraire de ce que Martin Luther King voulait. Il y a aussi beaucoup de compagnies, des gens, il y a toute une corporatisation du mode d'histoire des Noirs, un peu comme il y a une corporatisation aussi de la même chose avec la fierté gay. Donc, les compagnies qui font des actions qui sont exactement dans le contraire du sens de l'égalité, qui se mettent aussi à utiliser certaines citations, certaines personnes, certaines figures, à parler des statistiques qu'ils ont, une ou deux personnes à l'intérieur de leur rang pour finalement faire de la silenciation des gens qui ont des revendications. Dans ce contexte-là, c'est beaucoup la lettre de la prison à Birmingham qu'on cite beaucoup de Martin Luther King, qu'on essaie de donner un autre visage. C'est une lettre qui a été écrite alors qu'il était incarcéré, parce que d'ailleurs, l'ange qu'on essaie de canoniser aujourd'hui n'est pas la personne qui est allée en prison. Tu sais. La personne a vraiment été en prison, puis dans cette lettre-là, en fait, il parle du fait que la véritable paix, c'est pas l'absence de tension, c'est la présence de justice. Et que dans cette quête-là de justice, nécessairement, il va y avoir des tensions qui sont non violentes, mais des tensions qui sont nécessaires. Puis il parle après de sa déception envers ce qu'il appelle les blancs modérés, c'est-à-dire les personnes qui sont plus attachées à l'ordre, qui sont attachées à la justice, et pour qui la paix se définit par l'absence de tension, c'est-à-dire tout va bien, pas de chicane, qui est une attitude assez québécoise aussi, on pourrait dire. la question de la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, là. C'est-à-dire on va discuter d'égalité puis de racisme jusqu'à temps que ça ait des conséquences réelles. Puis cette attitude-là, c'est ce qu'il déplore. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui est comme ça aux États-Unis, comme c'est pas tout le monde qui est comme ça au Québec, mais il y en a assez, une gang qui est là puis qui utilise ces paroles, puis qui utilisent un paquet de gens qui dans l'histoire des Noirs qui ont joué des rôles révolutionnaires. Puis finalement, tu réalises que la seule façon vraiment d'aimer les Noirs, c'est une fois qu'ils sont morts, depuis comme vraiment longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là était démonisée de son vivant, et c'est une fois qu'il est mort que là, on commence à l'aimer. C'est la même chose avec un paquet de personnages, que c'est une fois que c'est dans le passé, là, on commence à dire qu'on était tous d'accord avec eux. Mm-hmm. Alors qu'à l'époque, les gens étaient contre eux. Puis les gens qui font exactement le même travail qu'eux aujourd'hui, on les démonise. Donc, on démonise les Martin Luther King contemporains, qui est finalement, par exemple, le mouvement Black Lives Matter ou les gens qui militent contre la brutalité policière. Donc, quand d'un côté, on dit que ces gens-là, c'est des extrémistes et que de l'autre côté, on applaudit Martin Luther King, on réalise que finalement, l'histoire des Noirs, ça peut être une façon d'être récupéré par certaines personnes pour justement nous dire de nous taire. Et je pense qu'il faut faire attention à ces dynamiques-là dans la façon dont on parle.
Puis, en fait, si on dépouille Martin Luther King de cette radicalité initiale qui l'habitait, c'est parce que c'est moins confrontant aussi. J'imagine aujourd'hui, on aime ça l'encenser et oublier une part de son bagage pour ne pas être confronté à ce qui cloche encore aujourd'hui.
Donc puis ça. Je pense aussi que c'est comme une époque qui a changé. À l'époque, dans les années 60, on parlait beaucoup plus du mouvement. Le mouvement était beaucoup plus internationaliste. On parlait des luttes pour l'indépendance des différents pays. Il y avait bien sûr la guerre au Vietnam contre laquelle... Puis toute cette dimension-là, souvent, il y a aussi une vision de la lutte contre le racisme qui peut se faire au Québec, aux États-Unis, ailleurs, qui est vraiment comme pour l'inclusion dans les structures et non pas pour la transformation des structures. Puis, dans cette perspective-là, il y a comme des messages, des solidarités aussi internationales qui sont effacées quand on veut plus être en solidarité avec les peuples qui vivent des choses similaires à ce qui ont été vécues à une certaine époque par les Afro-Américains. C'est aussi une autre façon dont on peut édicorer un message.
Un exemple de ça, mettons, pour quelqu'un qui, pour comprendre?
Par exemple, Angela Davis, qui est une des personnes de cette époque-là qui est encore vivante aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont été assassinés, d'autres qui ont été emprisonnés. Elle est encore là. Mais quand elle parle de la Palestine, par exemple, on n'aime pas ça. Mm. Mais quand on voit le discours que Martin Luther King tenait à l'époque pour les causes de son époque, c'est juste complètement cohérent pour elle de faire ce discours-là sur toutes les formes de colonisation, sur toutes les formes d'inégalité, puis sur toutes les formes de violence d'État qui puissent exister.
C'est d'ailleurs Angela Davis qui disait que la laïcité a été instrumentalisée contre la communauté musulmane. Je pense qu'elle disait ça très, très récemment même. Je me rappelle plus sur quelle plateforme. Je pense que c'était lors d'un voyage en France ou quelque chose. Mais c'est ça, c'est que les luttes continuent, les luttes se transforment, le racisme se transforme aussi. Donc, il revêt de nouveaux visages, mais il est toujours aussi présent. Dis-moi...
C'est pour ça, tu sais, parce que tantôt, je comprends que mon commentaire hors contexte peut sonner fort, là. Mais c'est pour ça que je dis les gens qu'on aime, c'est ceux qui sont morts, parce que ceux qui sont vivants continuent à challenger la société. Et dans ce sens-là, c'est plus confortable quand ils sont morts, parce que c'est dans le passé. Puis après ça, on peut avoir assimilé leur message, mais vu qu'ils ont arrêté de parler,
on peut se réapproprier leur message, puis le transformer, aussi, c'est ça.
C'est ce qu'on veut, il n'est pas là pour contester. Il y a d'autres gens qui vont contester, qui vont essayer de rétablir une forme de vérité, mais n'empêche, le principal intéressé, en quelque sorte, il n'est pas là pour dire « c'est pas exactement ce que je voulais dire ».
J'ai été mal citée.
Voilà.
Voilà. Donc, dis-moi, tu sais, les conséquences de tout ça, en fait, parce que, le moindrement là qu'on a le malheur de dire « si on profitait du mois là, de l'histoire des Noirs pour parler de racisme systémique qui prévaut encore dans nos sociétés aujourd'hui », on se fait aussi accuser de récupérer des commémorations que tout le monde veut avoir à des fins politiques.
Ben effectivement, mais je pense que au-delà de ça, quand on regarde par exemple ici concrètement à Montréal, il y a une programmation, du moins l'histoire des Noirs, il y a énormément d'activités, puis il y a de la place pour avoir ces conversations-là. Maintenant la question c'est quelles activités ont le plus de visibilité, qu'est-ce qu'on veut retenir de tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est aussi important quand on parle de lutte contre le racisme ou quand on parle de lutte contre les inégalités, de donner de la place au culturel, puis à l'historique, puis à l'apprentissage là-dedans, parce que souvent les préjugés sont là parce qu'il existe des inégalités réelles, mais si tu comprends pas d'où ils viennent, tu penses que c'est parce que les gens s'il y a plus de pauvreté dans certaines communautés, c'est parce que ces gens-là, mettons, ils travaillent moins, tu sais. Tandis que si tu comprends vraiment l'histoire ou si tu comprends la culture, si tu comprends d'où les gens viennent, tu vas pas avoir des préjugés ou des jugements en fonction des inégalités contemporaines, tu sais. Donc, c'est important qu'il y ait ce genre de programmation-là aussi, mais c'est important qu'on parle de la part des Noirs à la société, puis c'est important qu'on parle des réalités noires au-delà du mois de l'histoire. Tu sais, en mars, il y a la Semaine d'action contre le racisme. Au mois d'août, c'est là où on célèbre l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Donc, il y a plein de moments aussi comme ça. Mais au-delà de ça, tout au long de l'année, il y a différents événements, il y a différentes luttes. Puis on dirait que des fois, quand c'est le mois de février fini, les gens arrêtent d'écouter. Les gens arrêtent d'écouter. Ouais. Tu sais, si tu marches, s'il y a quelqu'un qui est tué par la police, mais comme en juillet, là, ben, tu sais, on écoute moins. Tandis que c'est vraiment, je pense que c'est important d'avoir un moment qui est dédié à certaines activités, mais en même temps, c'est pas rendu au 1er mars que t'as fait ton devoir, merci, bonsoir, t'es une bonne personne, donc tu peux arrêter d'écouter.
C'est pas une case à cocher.
Exactement.
Mmh. Écoute, moi, je voulais parler de quelque chose avec vous parce que, écoute. Il m'est arrivé de débattre là avec des gens sur ma page Facebook en parlant de racisme, puis qu'un gars blanc arrive, c'est toujours des gars blancs, arrive en me disant « Ouais, Vanessa, ton discours radical me fait un peu penser à celui de Malcolm X. T'aurais plus intérêt à suivre la voie de Martin Luther King, qui a tellement fait plus pour les Noirs que Malcolm X là, pour créer des ponts. » Qu'est-ce qu'on pense de cette affirmation-là qui met en opposition deux figures ultra importantes? On fait ça, hein? Il y a certains militants qu'on choisit plus que d'autres, qu'on choisit de mettre de l'avant parce que leur discours nous semble moins confrontant.
Oui, ben sûrement que le Martin Luther King, de toute façon, auquel il fait référence, c'est celui qui a été enregistré comme marque de commerce, là, pas la véritable personne, tu sais. Première des choses. Deuxième des choses, je pense aussi que les gens qui font ces débats-là, la plupart du temps, c'est les gens qui connaissent ni l'un ni l'autre. C'est des figures qui, oui, partent de visions différentes, mais en même temps, à la mort des deux, à la mesure que chacun des deux vieillissait, c'est des figures qui se sont ressemblées de plus en plus, leur discours a évolué. Puis à la fin, les distinctions étaient beaucoup moins grandes que quand ils étaient plus jeunes. Mais au-delà de ça, c'est que dans ces discussions-là, c'est justement un peu ce qu'on disait au début, là. C'est vraiment des gens qui, dans le fond, essaient de te dire comment agir, essaient de te dire, toi, Vanessa, voici comment tu devrais penser, voici comment tu devrais être, voici la façon dont je te souhaite d'exister. Puis après ça, le reste, c'est juste des outils. Puis là, ben, citer Martin Luther King, citer un autre, ou que ce soit des personnes au Québec aussi, qui sont des personnes qui ont un discours, disons, très consensuel. Puis on dit, pourquoi est-ce que tu peux pas plus être comme telle personne qui fait des chroniques que tout le monde applaudit, tu sais? Ce genre, je veux pas nommer personne, c'est pas ça le but. Mm-hmm. L'idée d'essayer d'utiliser certaines personnes pour essayer de dire à une personne noire, voici comment je voudrais que t'existes, existe donc comme ça serait plus plaisant pour moi. Je pense que c'est ça qu'on doit, sur lequel on devrait réfléchir, parce que le reste, finalement, c'est juste des stratégies pour arriver à ça, mais cette volonté-là de fond d'essayer de me dire comment agir. Moi, je suis d'origine haïtienne, on est indépendant puis on est libre depuis 1804, fait que ça fait comme 200 ans que t'as plus le droit de me dire comment agir.
J'adore, yeah girl!
faudrait comme get on with the program.
Ouais. Mais non, mais c'est ça, tu sais, puis pourquoi je voulais partager cette anecdote-là, parce que je voulais ouvrir la discussion en général sur le militantisme, parce que c'est ça, j'ai tout le temps l'impression que y a des voix parce que on va justement hausser la voix, parce qu'on va mettre notre point sur la table, soudainement ça devient moins valide. Mais je suis comme, c'est moins valide ce point de vue-là aux yeux de qui? La majorité qui veut pas être dérangée, qui veut choisir les modalités de la discussion sur le racisme en général. C'est ça que je trouve vraiment vraiment fascinant, tu sais, le fait qu'on ait jamais le droit à la colère comme militant, tu sais, parce que sinon il faut absolument nous chasser de l'espace public, puis on est toxique, alors que je pense que la colère quand même est légitime par moment, là. Je dis pas que ça doit être une fin, mais je pense que parfois la colère est nécessaire pour faire avancer les choses.
Mais c'est un peu comme la logique, encore une fois, tu sais, c'est comme regarder c'est quoi qu'on essaie de faire derrière ça. Puis ce qu'on essaie de faire, finalement, c'est de dire, j'ai le droit de pas écouter ce que tu me dis. Puis la raison, c'est parce que tu me le dis mal. Mm-hmm. Puis là, on critique la façon dont la personne s'exprime pour s'assurer de pas avoir à écouter ce que la personne est en train de dire. Puis ça, c'est pas seulement dans la lutte contre le racisme. Ah, on fait énormément aussi dans les luttes féministes. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est juste une façon de vraiment... ne pas écouter, encore une fois. Je pense que ça va vraiment être un message qui va revenir. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est un message qui est important. Dans ce dont on parle, finalement, c'est qu'on est en train de parler de différentes stratégies que les gens ont pour arrêter d'écouter. Mm. Que ce soit en prenant des modèles puis les édulcorant jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de message, donc ne plus écouter le message. Que ce soit en essayant de prendre ces personnes-là édulcorées pour dire aux personnes qui sont encore vivantes de pas parler. Que ce soit en idéalisant les luttes du passé pour dire que finalement elles sont finies puis que maintenant le progrès va arriver tout seul, puis il faut juste que tu sois patiente. Donc, il y a comme un ensemble de choses qu'on fait pour éviter d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Puis je pense que c'est un peu ça qui ressort pour moi du thème de la discussion qu'on est en train d'avoir en ce moment là. Puis de se rappeler finalement que les réalités, les injustices, oui, elles se transforment. Oui, c'est pas exactement les mêmes stratégies, les mêmes réalités au Canada qu'aux États-Unis, mais les réalités des inégalités restent présentes. Et tant et sous-entend qu'elles vont être présentes, ça va être important d'avoir des conversations, et des conversations où on est de bonne foi les uns envers les autres, où on n'est pas en train d'essayer de se faire taire.
Émilie, tu as écrit un texte, puis je voulais absolument revenir là-dessus parce que c'est un texte qui a fait abondamment jaser, puis ça va finir par recouper le sujet du jour. Tu as fait un texte dans lequel tu parles de l'expression nègre-blanc d'Amérique. Et tu avais une opinion là-dessus, puis j'aimerais ça quand même que tu la partages, que tu la fasses découvrir, parce que souvent, au Québec, c'est une expression qui revient régulièrement pour comparer la lutte des Noirs. Tu sais, mettons, justement, on est dans une période de commémoration, right? Fait que là, on se dit, oh, mais les Noirs, on comprend, nous, les Québécois, ce que vous avez vécu. After all, nègre blanc d'Amérique, speak white, nananana. Puis c'est comme, oui, nous avons des luttes communes, effectivement. Je peux comprendre la nécessité, la question de l'émancipation des peuples. C'est très, très légitime du point de vue québécois, autant que du point de vue des communautés noires. Par contre, la source de l'oppression n'est pas du tout la même. Et c'est surtout que, comme Québécois de souche, ben, vous pouvez être opprimé d'un côté et être oppresseur de l'autre.
Mais oui. Et mon texte dans la revue Liberté, je pars du poème « Speak White » de Michel Lalonde, puis dans lequel elle dit « Ah, de Saint-Henri à Saint-Domingue », Saint-Domingue étant le nom qu'Haïti avait comme plantation, comme colonie française esclavagiste, là. Donc de comparer le quartier populaire de Saint-Henri à l'une des pages les plus sombres de l'Empire français esclavagiste, c'est quand même intense. Puis du fait que ce poème-là, on le répète, puis ça passe dans le bar, parce que la volonté du poème, c'est d'être en solidarité internationaliste. Et puis cette volonté-là, je crois qu'elle est sincère. Puis la même chose avec l'histoire de Nègre blanc d'Amérique, c'est une volonté aussi de la part de l'auteur qui est allé se promener aux États-Unis, puis tout ça, d'être en solidarité avec les Afro-Américains, puis de faire des comparaisons. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que pour beaucoup de gens dans le mouvement nationaliste québécois à une certaine époque, c'est comme si la solidarité ne vient que pour être des métaphores de ta propre lutte. Mm-hmm. Finalement, je m'intéresse à toi que parce que m'intéresser à toi me donne des arguments pour défendre mon propre combat à moi.
Ouais.
Et c'est là qu'il y a un bug. C'est comme, est-ce que quand tu parles de nègre blanc d'Amérique, t'es en train d'utiliser le fait que les Noirs existent comme métaphore de ta propre existence plutôt que d'être véritablement en solidarité avec les Noirs? Parce qu'une fois que t'arrêtes d'être nègre blanc d'Amérique parce qu'on a eu une révolution tranquille puis que là, ça va mieux, est-ce que tu t'intéresses encore aux gens qui sont encore nègres? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, il y a une limite à s'intéresser aux autres que pour faire des comparaisons, que pour faire des métaphores. Si tu le fais dans le moment, ça peut sembler vraiment une solidarité internationaliste, mais ça s'épuise rapidement. Puis ça s'élimite comme stratégie parce que les gens qui sont véritablement noirs sont pas des métaphores, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui sont là, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir cette génération-là qui utilisait cette expression-là, à quel point il y avait aussi un angle mort par rapport aux Noirs, ici même au Québec. Ben, on utilisait les Noirs d'ailleurs pour dire, regardez comment ils souffrent ailleurs par rapport à nous autres ici, tout en étant complètement dans l'invisibilisation des Noirs de Montréal, alors que justement, dans le fameux quartier Saint-Henri, il y avait la communauté noire, complètement dans l'invisibilisation aussi des luttes des communautés autochtones. Donc, quand on prend les questions de la colonisation comme une métaphore, ce qu'on est en train de dire, c'est ramener les réalités de l'autre, finalement, à soi, ramener la conversation à soi et effacer finalement ce que les autres vivent. Puis c'est difficile, je pense, d'entendre ces choses, ce que je suis en train de dire là pour beaucoup de personnes.
Et ça
choque.
Fait réagir ton texte là.
Oui, parce que c'est comme essayer de dire qu'il n'y avait pas véritablement une intention d'être en internationaliste, d'être solidaire.
C'est pas légitime aussi la lutte des Québécois en général, non, là, qui n'ont pas souffert sous le joug des Anglais,
oui,
des Britanniques, tout ça.
Mais c'est fou parce qu'après ça on va dire oui, mais eux autres, les FLQ est allé faire de la solidarité avec les Black Mentors, puis on va se rappeler de ça. Honnêtement, j'ai jamais entendu des gens qui sont dans les Black Panthers se rappeler du FLQ. C'est comme, c'est un peu à sens unique, cette histoire-là. Et je pense que les solidarités entre les Afro-Américains internationaux, il y en a beaucoup qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui, partout dans les Amériques, partout en Afrique. Et somehow, cette idée-là là, de solidarité avec le nationaliste québécois, quand j'entends les Afro-Américains aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui ressort, tu sais. Donc, je veux pas dire que ça a pas existé, je veux dire que c'est quelque chose qui a toujours été très limité.
Mais ils vont dire que c'est un complot du multiculturalisme canadien qui fait en sorte qu'on a invisibilisé la réalité québécoise, puis que c'est pour ça que ça s'est perdu, tu sais. Tu le sais ouais. Que c'est très délicat, ces questions-là.
Oui, je sais que c'est super délicat.
Il y a toujours des gens qui vont te répondre, puis qui vont pas croire en fait.
Mais c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois qu'on me dit non, mais c'est parce que je comprends pas ton histoire, moi, dans le fond, je suis métisse. Hein. C'est que je suis autant d'origine canadienne-française que d'origine haïtienne. Puis quand je dis ces deux identités-là font partie de moi, puis ces deux identités-là sont pas la même chose, je suis quand même assez bien placée dans une certaine façon pour dire.
T'es un peu anthropologue aussi, tu sais.
Quand je parle des histoires canadiennes-françaises, c'est mon histoire, puis je suis en train de dire, wow, minute, comme vas-y mollo avec les métaphores. Puis pour moi, je le fais, même si ça dérange, parce que d'une certaine façon, c'est comme la seule façon dont je peux être entière, sans que ces différentes parties-là de moi soient en conflit l'une avec les autres. C'est de donner à chacun sa propre part. Je pense que même si on n'a pas besoin d'être métisse pour de faire la même chose, puis je pense que comme ça, on va être plus en mesure de s'écouter dans le respect.
Oui, puis si ça fait aussi mal, puis c'est aussi inconfortable, c'est parce que ça met précisément le doigt sur quelque chose.
Sur le bobo.
Ouais, ça touche à une corde sensible pour une raison.
Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, au-delà des réactions négatives, tu sais, à Liberté, il y a eu des gens qui ont chialé, mais ils n'ont jamais eu autant aussi de nouveaux abonnements quand ce texte-là est sorti. Donc, c'est aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre certaines choses, puis qui sentaient que il y avait des vaches sacrées auxquelles on ne pouvait pas s'attaquer. Mm-hmm. Mais je pense qu'une fois qu'on recadre un peu les choses, il y a certaines personnes à qui ça donne aussi cet espace-là d'être entière. Mm-hmm. C'est pas juste moi personnellement. Mm-hmm. Il y a d'autres personnes qui ont besoin qu'on recadre les choses pour pouvoir exprimer toute la complexité qui existe dans la société québécoise puis à l'intérieur d'eux-mêmes.
Puis je veux juste rappeler que ce texte-là s'appelle « Maître chez l'autre ». C'est publié dans le numéro 326 de la revue Liberté, 60 ans de lutte et d'idées. Donc, l'hiver 2020.
Non, c'était cet automne.
À l'automne? Fait.
Oui, c'est ça, à l'automne 2019.
D'accord, ouais. OK. Je l'ai devant moi, puis je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils l'ont remis en ligne, mais bref. Ouais. Donc, un article que je recommande. Il l'avait même publié dans sa totalité, ce qu'ils font très rarement, parce que ça tellement... Mais me semble, en tout cas, moi, je me semble que je l'ai lu au complet. Je suis vraiment contente que tu aies abordé la question de l'identité, parce que ça fait plusieurs semaines... depuis le début de l'émission, qu'on se fait challenger sur le concept de racialisation, parce que dans notre générique, notamment, on parle de personnes racisées. Et pendant longtemps, je me disais, mon Dieu, faut que je trouve une bonne personne pour l'exprimer, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la personne racisée. Donc, ce concept-là de racialisation, et je pense, avec ton bagage, Émilie, que tu es la bonne personne pour l'expliquer. Alors, je te demanderais...
Pas de pression
du tout. Selon toi, mais pas selon toi, selon ce que tu sais, parce que bon, t'es anthropologue, je le rappelle, qu'est-ce que ça veut dire la racialisation?
Ben, je veux dire, selon la Commission des droits de la personne du Canada, puis, tu sais, c'est comme, c'est même pas, puis selon le dictionnaire, en fait, c'est un mot qui est dans le Robert, je pense, maintenant, là. Souvent, on en parle encore au Québec en guillemets, comme si c'était comme une invention bizarre, là, mais on est ailleurs. Que les gens le sachent. Donc, quand on parle de personnes racisées ou de racialisation, ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est que les races n'existent pas, ce qui est vrai. Puis, ce qu'on utilise d'ailleurs souvent pour dire qu'on devrait arrêter de parler de racisme, mais les races n'existent pas. Les races sont des inventions, qu'on a des idéologies, mais des idéologies qui ont un rapport réel, une incidence réelle sur la société. Donc, quand on dit on est racisé, quand on dit on est racialisé, ce qu'on est en train de dire, c'est que les races n'existent pas, c'est un processus, c'est quelque chose qu'on a construit sur les personnes qui sont racisées. Donc, les personnes noires, les personnes à qui on attribue quelque chose qui est autre que la blanchité, c'est quelque chose qui a été construit, puis c'est des choses qui sont absurdes aussi. Il faut le dire, parce que justement, les races n'existent pas. Une chose qu'on entend souvent, c'est comme il ne peut pas avoir de racisme envers les musulmans, c'est pas une race. Ce à quoi faut répondre, nomme-moi les races qui existent vraiment. C'est ça l'affaire, c'est que les races n'existent pas, mais du moment que il y a ce discours-là qui est racisant envers un groupe, ça se met à exister. Puis c'est important aussi d'en parler, de cette racialisation-là. C'est important d'en parler parce que c'est un peu, mettons, si la pauvreté, OK, puis l'argent aussi, c'est une invention, ça n'existe pas biologiquement. Si je suis riche, puis que toi, Vanessa, t'es pauvre.
Ah oui, sérieux, là.
Puis que, ouais, t'es vrai, t'es, en plus, c'est
ouais,
même pas...
factuel.
C'est factuel. Puis que là, j'arrive avec un billet, mettons, de 1 000 $, puis que je te dis, mais le billet de 1 000 $, au fond, c'est juste un morceau de papier. Ça n'a pas d'existence biologique, ça n'a pas d'existence réelle, c'est juste une invention sociale. Fait comme, si on pouvait juste arrêter de penser autant que ça au billet de 1 000 $, puis que moi, je suis riche, puis que toi, t'es pauvre, hein, pendant que je te dis mm-hmm. ça, on irait donc bien mieux. Tu me dirais, honnêtement, tu m'enverrais probablement
oui,
chier.
Mange la marde, là, tu sais.
C'est ça, exactement. Parce que pendant que je dis ça, puis que je suis en train de philosopher sur pourquoi est-ce que c'est donc fatigant qu'on soit toujours en train de parler d'argent, je suis pas en train de régler le fait que toi, t'es pauvre, puis que moi, je suis riche. Mm. Mais c'est un peu ça qu'on dit. La racialisation est réelle, même si c'est pas biologique. C'est réel socialement. Puis le fait que t'as pas envie de parler de race pendant que t'es blanc, ben ça évite pas, ça n'efface pas les statistiques sur les inégalités économiques, les inégalités en termes d'accès à la justice, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation qui sont là vraiment. Donc, peu importe que tu le reconnaisses ou pas, je suis racisée quand même.
Mmh. Donc, c'est dans les yeux de l'autre aussi, la racialisation. Oui. C'est-à-dire que moi, je veux dire, à chaque fois, c'est pas moi, je m'avance pas dans la vie en disant je suis noire. C'est toujours les autres qui me rappellent que je suis noire. Par exemple, quand je vais dire que je suis québécoise, on va jamais juste accepter que je suis québécoise parce que je suis noire. On va me demander, non, mais tu viens d'où pour de vrai?
Ouais, puis c'est non seulement qu'on te le rappelle, mais on te réduit et t'enferme dans une identité
exactement
ethnique, ouais. raciale, etc.
Exactement. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est que c'est toujours dans les yeux de la personne devant soi qu'on finit par incarner l'autre. Tu sais. Mm-hmm. Donc à chaque fois que j'ai pris conscience que j'étais différente, ben c'est parce que quelqu'un me l'avait dit.
Ouais. Ouais. Puis tu sais l'autre chose par rapport à ça, puis qu'il faut faire attention, puis peut-être c'est la chose sur laquelle c'est important de rappeler quand on dit pourquoi il faut parler de l'histoire des Noirs là. C'est que c'est à force de se faire dire des choses justement que les autres nous le rappellent, ça finit par entrer dans notre dialogue intérieur. Mm-hmm. À force que de voir certaines représentations, d'être bombardé comme ça par ces représentations-là, ça finit par avoir une influence sur l'image qu'une personne peut avoir d'elle-même. Donc, quand on essaie de mettre de l'avant des représentations positives, quand on essaie de mettre de l'avant l'histoire des Noirs, c'est une façon aussi de dire, attention, voici qui tu as de la valeur. Et parce que tu as de la valeur, tu devrais pas faire attention à ce dialogue-là qui continue mm-hmm. des fois même à exister dans ta tête, même si les personnes qui t'ont racisé finalement sont plus dans la pièce. Mm-hmm.
Ouais.
C'est vraiment une question d'estime de soi, c'est vraiment une question de confiance en soi, puis c'est une question de santé mentale.
Hey, très rapidement, je veux raconter juste vite l'histoire de mon frère, parce que j'ai vraiment une bonne histoire là-dessus. Mon frère, quand il avait 7 ans, il était en première année, il était en train de faire une activité à l'école dans sa classe en groupe, puis la prof a dit, bon, les amis, puis il allait dans une école là, à Saint-Léonard, fait que c'était une classe assez variée, mais majoritairement des Blancs, des Italiens, et là, la prof dit, bon, mettez-vous en cercle, on se donne la main. Et la fille, il y a une fille qui arrive, qui est à côté de mon frère, qui dit, moi, je veux pas prendre la main de Clarence, qui est le nom de mon frère. Et la prof fait, ben pourquoi? Puis elle dit, parce qu'il est noir. Elle dit ça. Mm-hmm. Ils ont 7 ans, sont en cercle. Et c'est là que mon frère a réalisé qu'il était différent mm-hmm. et que cette différence-là allait lui causer des problèmes dans la vie.
Mm-hmm.
La prof, elle a été excessivement choquée cette journée-là. Puis elle a décidé d'arrêter l'activité et d'en faire une autre où elle a demandé aux enfants, est-ce qu'on a tous deux yeux, un nez, une mm-hmm. bouche, nanana, des questions d'usage pour les amener à comprendre qu'on est tous pareils. Elle leur a demandé aussi de se dessiner. Et mon frère, encore une fois, c'était vraiment le seul noir dans sa classe. Tout le monde s'était dessiné, tu sais, comme avec le crayon couleur peau, genre, le fameux crayon beige. Puis mon frère s'était dessiné en gris.
Mm.
Il s'était dessiné, même pas en noir, s'était dessiné en gris. Puis, il nous a jamais parlé de ça. En fait, mes parents l'ont su plusieurs mois plus tard en allant à la rencontre de parents, tu sais, où la professeure avait dit, « Ah, oh, Clarence, il a vraiment commencé l'année en force, c'était vraiment super, mais après, bon, il y a eu cet incident-là. » Puis bon, son attitude a changé en classe. Puis ma belle-mère était comme, « Mais quel incident? » Puis c'est la prof qui lui a appris que ça s'était passé. Mm-hmm. Mon frère jamais n'en a parlé. Il l'a intériorisé, il a gardé ça pour lui, cette honte-là, cette humiliation-là. Cette peine-là.
C'est comme la
ça me cette fait penser, blessure, en fait, ouais.
Ben absolument, puis ça me fait penser à une expérience qu'on cite souvent, une étude qui a été faite il y a quand même longtemps, mais qui a été reproduite, dans laquelle on demande à des enfants des jeunes enfants noirs, notamment, de décider entre deux poupées laquelle est belle puis laquelle est laide, ou laquelle est méchante, laquelle est gentille. Puis même les enfants noirs disaient que la poupée noire était la poupée qui était laide et méchante. C'est incroyable. Puis quand on leur demandait pourquoi, ben parce qu'elle est noire.
Ouais.
Ils en viennent à poser ce regard sur eux-mêmes.
C'est ça. Pendant que j'ai une audience, j'en profitais.
Ouais.
sur le site de Harvard, vous pouvez faire un test qui s'appelle sur des biens implicites.
Oui, je l'ai fait.
Puis c'est disponible en français d'ailleurs. Okay. Puis ce test-là, ça te permet de finalement, ça te demande d'associer, ça, vous pouvez le faire sur toutes sortes de contextes, mais il y en a notamment un sur la race, sur la question blanc-noir. Puis ça vous demande d'associer, par exemple, des concepts positifs rapidement avec des visages blancs, puis des concepts négatifs rapidement avec des visages noirs. Puis ensuite, ça vous demande de faire l'inverse. Et quand vous faites l'inverse, le temps de réaction, on fait plus d'erreurs. Puis c'est là qu'on réalise finalement qu'à force d'avoir été bombardé d'un certain type d'image, on finit par associer plus rapidement certains concepts avec certains types de visages. Puis ça influence la façon dont on prend des décisions, dans la façon dont on a des premières impressions positives ou pas d'une personne qu'on rencontre. Et c'est très insidieux. Plus qu'on est en situation de stress, plus qu'on prend des décisions en fonction de nos réflexes. Par exemple, quand on est dans le milieu de la santé ou dans le milieu de l'éducation, puis qu'on est super stressé à cause du néolibéralisme, puis que l'austérité, puis que les services publics s'effondrent, mais ça augmente les chances d'avoir des comportements qui peuvent être discriminatoires plus rapidement. Puis même les personnes qui sont elles-mêmes racisées sont exposés aux mêmes images que tout le monde, puis on peut nous-mêmes avoir des réflexes négatifs envers son propre visage, un peu comme tu disais, Dalila. Puis, c'est important de juste, si vous faites ce test-là, sur le site de l'Université Harvard, bien implicite, vous allez pouvoir voir vous-même les biais que vous pouvez avoir ou pas. Puis, justement, pas dans une attitude de jugement ou de dire t'es une mauvaise ou t'es une bonne personne, juste parce que quand on est dans la société puis qu'on voit juste des faits divers où on se fait dire que les Noirs sont des criminels, ben nécessairement, à force de se faire répéter la même chose, ça finit par rentrer par le subconscient et ça finit par avoir un impact sur la façon dont on peut créer des liens en société. Ça peut avoir un impact sur quel CV tu vas rappeler quand tu es en train de faire une entrevue d'embauche. Donc, c'est important d'abord d'en prendre conscience. Puis d'avoir ces conversations-là. Tu sais, probablement que dans ta famille, justement, vu que ton frère avait vécu ça, vous avez dû avoir des conversations très jeunes sur c'est quoi la réalité du racisme. Mais ça serait le fun que dans les familles aussi qui sont blanches, dans les familles québécoises, d'origine canadienne, française, ça serait le fun que ces mêmes conversations-là puissent avoir lieu. Ça ne devrait pas être un tabou. Et surtout, il ne faudrait pas juste les avoir durant le mois de février.
Donc, merci, Émilie. C'est ce qui conclut, en fait, l'épisode. C'est une très belle façon de le conclure. Je te remercie d'avoir été des nôtres, là, d'avoir jasé avec nous de cette question-là de mémoire édulcorée durant le mois de l'histoire des Noirs. Évidemment, là, vous savez qu'on a un autre segment, celui du chouchou de la semaine. Je vous amène du côté du cinéma. Le chouchou de la semaine. Alors, pour le chouchou, cette semaine, je vous parle d'un film que vous avez vu, toutes les deux. Toi, tu l'as vu, Dalila. Toi aussi, Émilie.
Oui.
On l'a vu les trois le même soir. Il s'agit du film Quimbella jusqu'à la victoire. C'est un documentaire réalisé par Will Prosper. Will Prosper, que vous connaissez probablement, étant donné que c'est une figure qu'on voit régulièrement dans les médias pour discuter des questions, notamment de profilage racial. Donc, Will qui nous offre un documentaire sur un Montréalais d'origine haïtienne, Alain Philoctète, qui est de retour dans son pays pour développer des projets en agronomie. Et pendant son séjour, ben on découvre qu'il est atteint d'un cancer. Donc, c'est un récit qui nous fait voir vraiment le récit pas un drame humain, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir qui transpire de ce film-là. Des images incroyables d'Haïti, des gens qui travaillent très fort pour faire des différences du point de vue local. Le projet d'un homme aussi, mais qui est un projet, dans le fond, communautaire. Et surtout, sa lutte, une fois rendue au Québec, pour mener à terme ses activités. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le documentaire. Je l'ai trouvé particulièrement touchant. C'était un documentaire qui était présenté dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Puis en fait, il a tellement été apprécié que bon, il a été, on l'a présenté là, à la Cinémathèque québécoise et il y a même eu des prolongations. Donc, on a décidé de le garder à l'affiche un peu plus longtemps parce que l'engouement pour le film était super important. Et moi, je voulais savoir, les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là?
Moi, ça m'avait beaucoup touché, surtout que je connais Alain depuis quelques années.
Ah, ouais.
Alain et Chantal, oui, on s'est connus à Montréal-Nord. Et donc, de le voir comme ça dans le film, d'évoquer sa maladie, c'est sûr que ça touche beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le message finalement qui ressort de ça. T'sais, Alain, c'est comme si il nous insufflait une nouvelle énergie pour continuer à comme lutter, nous engager. Donc, ça m'a laissé vraiment un feeling à la fois triste et doux.
Ouais. Et toi, Émilie?
C'est un film qui parle beaucoup de résistance, de persévérance, de courage. Puis je pense qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de défis, puis il y a beaucoup de gens qui, quand ils font face à des défis, s'effondrent. Alain, c'est une personne qui a une capacité extraordinaire à rester positif devant l'adversité, puis à rester optimiste, puis à trouver de la poésie dans tout. Puis je pense que c'est ça qu'on retient quand on voit le film, c'est une connexion sur la poésie de la vie, puis sur l'amour dans un couple âgé.
Oui.
C'est rare qu'on voit des couples de cet âge-là qui sont ensemble depuis longtemps, la tendresse qu'ils ont entre les deux, être présente de cette façon-là. Puis je pense que ce qui touche les gens dans la salle, c'est vraiment la place de l'amour puis de la tendresse dans la lutte pour la vie, tu sais, quand on parle de cancer carrément,
ouais.
Mais la vie collective aussi, parce qu'Haïti, ça va pas bien hein, en
non,
ce moment.
Non,
mais c'est avec l'amour, puis la tendresse, puis la compassion, puis la persévérance qu'on réussit quand même à monter des projets, puis à garder en soi l'amour de sa patrie.
Ouais, puis c'est un film aussi qui se termine sur la passation hein, d'un père à son fils, mm-hmm, entre autres. Mm-hmm. Donc, je trouve ça très, très porteur et magnifique. Donc, on salue le travail derrière ce film-là. Et c'est ce qui conclut l'émission cette semaine. Donc, je vous invite à aller le voir. Je ne sais pas s'il va être rendu disponible par la suite. Je vous tiendrai au courant via la page de Pigment Fort, évidemment. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires sur l'émission d'aujourd'hui ou sur des émissions passées, vous pouvez nous écrire en tout temps via notre page Facebook, en message privé ou commenter. N'hésitez pas à nous écrire aussi sous les publications que l'on fait, sous les partages des émissions. Et n'oubliez pas aussi de donner un peu d'amour à Pigment Fort sur vos plateformes d'écoute préférées. Donc, merci et bonne semaine à toi, Dalila.
Merci, à toi aussi.
Merci encore, Émilie, d'avoir été avec nous.
Merci.
Bye, à la prochaine. À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.